Bonjour et bienvenue au One Eye Club, le podcast BD bimensuel qui... Enfin voilà quoi. Bonjour, bonjour Thio, malgré les événements tragiques de ces dernières semaines, nous avons tenu à faire ce podcast. Pour ceux qui vivraient sur notre planète, Thio, rappelle-nous un peu tout ce qu'on doit subir en ce moment.
Eh bien donc, la France ne s'est pas qualifiée pour le deuxième tour. Actuellement, Raymond Domenech donc, a fait une tentative de suicide. Notre cher président est à son chevet. Il ne dirige plus du tout le pays. Des manifestations dans la rue, tout est à feu et à sang, je crois que c'est...
Le pays part à volo. Mais cela ne nous empêchera pas de parler de bande dessinée. Nous n'aurons pas d'easy reading, car l'easy reading, c'est quelque chose qui se lit de façon légère, dans la joie et la bonne humeur, et on n'est pas d'humeur.
Le carrier pas, quoi.
Et comme je le disais, tout va à volo. Et nous passons donc à Long John Silver.
Et bien donc, Long John Silver.
Le labyrinthe d'Emeraude, le tome 3.
De chez Dargo. Au dessin, Mathieu Loffray.
Ah.
Au scénario, Xavier. Alors là, on n'est pas d'accord.
Dorison.
Voilà, bon. On sait qui c'est au moins.
Voilà.
Pour situer juste un
on
petit peu les auteurs.
On sait qui c'est, vas-y, dis-le. Qui c'est.
Donc pour situer un petit peu les auteurs. Donc Xavier Dorison, scénariste de Sanctuaire. Une excellente bande dessinée qu'on fera sans doute un jour, j'espère, en intégrale.
Oui.
C'est une série qui finit en 3 tomes, qui en plus donc a une suite maintenant. Les Sentinelles, qui est une série en cours.
Oui.
Long John Silver, qui est aussi une série en cours, excellente.
On
va en parler tout de suite. Et Le Troisième Testament, donc, qui est une série terminée en 4 tomes.
Et qui est un petit peu la série qui a tout cartonné dans la décennie précédente.
C'est cela, oui.
L'époque ont gagné.
C'est ça.
Long John Silver.
Bah, et tu présentes que le scénariste et l'auteur.
Le dessinateur. Mais le dessinateur a-t-il besoin d'être présenté? T'as vu un peu comme je me rattrape. Mathieu Loffray. Donc Mathieu Loffray, c'est un dessinateur que j'aime beaucoup, qui a dessiné Sanctuaire. C'est bien ça? Vas-y. J'ai dit une connerie. Vas-y, Prophète. C'est ça.
Prophète,
voilà, c'est ça. Qui a beaucoup travaillé dans le game design, dans le cinéma.
Alone in the Dark.
Voilà, il travaille sur un des derniers Alone in the Dark. Il
a le Pacte des Loups aussi au cinéma.
Ouais, Saint-Ange, un truc qui n'a pas marché. T'as entendu parler de Saint-Ange, bien sûr.
cette
grimace nous dit bien que. Et pourtant, on en a parlé de ce film français d'horreur, je crois. Les films français d'horreur, bizarrement, dès qu'on fait un film de genre en France, eh ben, on n'entend pas parler. Si on commence à vouloir se faire un film genre « Je suis triste, ma vie est difficile, je suis en train de vieillir », on en parle. Tu vois. Mais dès qu'on fait un film genre « Il y a des monstres de l'horreur et un truc qui fait peur », on n'en parle pas. Mais bon. Long John Silver, c'est une... On va le dire, même s'ils disent que c'est pas ça. c'est une suite.
Oui.
C'est une suite de...
L'île
au trésor de Robert Louis Stevenson. Alors, il commence déjà de le premier tome. Ceci n'est pas une suite, mais un hommage. Et pourtant, ça se passe après. On va donc considérer que c'est une suite, parce que c'est comme ça que je l'ai lu.
Avec donc le personnage emblématique, le plus charismatique, le plus extraordinaire qui a bercé mon enfance, la tienne aussi, j'espère.
Pas pour les mêmes raisons.
Mais Long John Silver, quoi. Le pirate, quoi. Le truc énorme.
Je dois avouer qu'à ma grande honte, je ne connais Long John Silver que... par le dessin animé japonais, qui était fort génial, hein, faut le dire aussi, il était génial ce dessin animé.
Oui, mais,
et que je ne connais même pas l'histoire de l'île au trésor en entier, je ne l'ai pas lu.
Je crois que je vais partir. Je suis allé brûler ta voiture, tiens.
Elle est en train de finir dans ma piscine. Il y avait une famille qui s'était réfugiée dedans.
C'est la famille de Thierry Henry, non?
C'est la famille d'Idan qui habite à côté. Donc nous reprenons sur ce tome qui nous compte la suite.
Avec donc Lady Hastings qui a réussi à prendre le bateau avec Long John Silver et son équipage pour aller secourir, donc, elle a pris donc le Neptune, justement, c'est le nom du bateau, pour aller donc secourir son mari, donc, qui aurait trouvé l'Eldorado en Amérique du Sud.
Très simplement, en fait, c'est facile à résumer les tomes. Tome 1, présentation des personnages. Lady Hastings, une intrigante qui va avoir plein de problèmes et qui décide de retrouver son mari pour lui piquer son or et le faire tuer par...
Avec des mœurs un peu légères.
Voilà, et le faire tuer par Long John Silver, qui est enceinte et qui, grâce au médecin Livesey...
autre personnage donc de l'île au trésor, qui est toujours présent.
Prend contact. Tome 2, ils sont sur le bateau et... Et en gros, un môme se fait...
Mutinerie.
Il y a une mutinerie.
Môme se fait dessouder.
Mutinerie. Donc John Silver le prend pour lui, il le prend mal parce qu'il se sent responsable, même si ce n'était pas vraiment le cas.
Ce n'est toujours pas un rappel de l'île au trésor, l'original.
Et bon, bah, ça part un peu en vrille. Ce tome-là, bah, maintenant, il faut qu'il trouve... comment, ils n'ont plus de capitaine. C'est John Silver qui prend le truc.
Et un Indien.
Et un Indien, et bah, c'est trouvé Guyanacapac. Guyanacapac.
Pas mal.
Ouais, pas mal. Hein.
Ah là là, non, je suis impressionné. Ouais,
c'était dur à dire, hein, Guyanacapac. Retrouver Guyanacapac pour retrouver le trésor. Et plus ça va, plus ils disent qu'il y a quand même quelque chose d'étrange dans la façon dont l'aventure se passe. L'Indien, qui semble... était vraiment un figurant... commence à prendre un petit peu d'importance. Lady Hastings a un peu plus de mal à cacher son ventre. Je pense que son môme sous les corsets doit être comprimé, qu'il n'en peut plus.
Voilà. Il peut être un peu tout, oui.
Quoi d'autre au niveau des personnages, il commence à y avoir un peu les grandes gueules qui veulent s'opposer à Long John Silver.
Encore un rappel d'une histoire ancienne. Mais c'est pas... Même si, je dis quand même qu'il y a beaucoup de rappels par rapport à la vraie histoire, c'est clair que c'est quand même un hommage, et je trouve que c'est un bel hommage. Pour l'instant, je me régale à les lire. Ça monte en puissance, voilà, j'attends la suite. C'est dommage qu'ils mettent autant de temps à nous sortir les tomes, mais bon.
Oui, c'est quand on voit les dessins, ça permet de faire une belle transition. On se dit qu'effectivement, il doit y passer du temps. Alors, le style de Mathieu Loffray, on voit que c'est un peu... Enfin, pour moi, c'est la même école que Claire Wendling, qu'il y avait qui d'autre dans le même genre. Ah, j'ai oublié. Mais ils sont plusieurs à avoir un peu... Je sais pas, on sent qu'ils se sont inspirés beaucoup les uns des autres pendant quelques années. Mais il y a un trait très organique. Les visages, par exemple, il y a des traits assez... C'est dur de définir un dessin quand même. Hein. Allez dans votre magasin préféré et feuilletez-le. Enfin bref, il y a un ancrage superbe, déjà. Des noirs géniaux. Des couleurs sobres. Juste ce qu'il faut. Ils n'en font pas des tonnes. Qui font un peu penser un petit côté aquarelle, même si on voit que ça doit être informatique, je pense quand même.
C'est informatique, ouais.
Une Lady Hastings de toute beauté. Ils ont fait vraiment un personnage féminin fort et intéressant. Je crois que c'est le plus qu'il y a dans, par rapport à l'île au trésor, justement.
Il n'y avait pas de femme.
C'est ce personnage féminin fort et aussi horrible que tous ces pirates, en fait, hein, tous ces forbans. Mais il reste un mystère, c'est quel est l'objectif de Long John Silver ? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop non plus hein, ce qu'il veut.
Mais pour l'instant, on est un peu dans le flou, on va dire. Parce que les événements commencent... Ça commence à avancer, mais on ne sait pas vraiment où ça va.
Disons que la fin du tome nous laisse un beau cliffhanger qui nous laisse sur une envie d'avoir ce tome 4. Ce tome 4 qui va conclure l'histoire pour qu'on sache enfin comment ça va se passer. Seul truc qui m'a un peu semblé bizarre parce que c'était très tendancieux, j'ai l'impression qu'il commence à introduire l'élément fantastique et ça m'a fait bizarre. Ça t'a pas... On va pas dire ce qui se passe, etc. Mais on a l'impression qu'ils introduisent l'élément fantastique. Même si c'est tendancieux, c'est peut-être pas du fantastique, etc. Mais c'est l'impression que ça m'a donné à la lecture.
Moi, ça m'a pas dérangé parce que ça allait bien dans la continuité, quoi. Même l'histoire de...
Guyanacapac.
Ah, ouais, j'y arrive pas.
Guyanacapac. Répète après moi.
Guyanacapac. Guyanacapac. Voilà. Même déjà l'histoire de Guyanacapac est quand même assez déjà, on va dire, commence à tirer vers le fantastique. Donc du coup, je sais pas, moi c'est une bonne. Non, ce passage-là sur la fin m'a pas. Au contraire, voilà, ça, au contraire, ça suscite un peu plus d'intérêt.
Ça suscite l'intérêt, mais j'espère qu'on ne va pas avoir une conclusion trop tournée vers le fantastique
voilà.
Derrière.
Et surtout, voilà, quand vous finissez le tome 3, vous avez quand même un magnifique portrait.
Il est dans tous les tomes. Hein.
Ouais, mais là, celui-là, je trouve qu'il est.
Oui, ce portrait est superbe. On est dans la peinture, c'est classe, c'est beau. Donc, London Silver chez Dargo, ça doit coûter une douzaine d'euros. Et c'est beau, c'est bien. Tio, je chope-le avant qu'il s'enfuit. Le chat. Bon, bien, ce n'est pas encore aujourd'hui que nous allons manger. Oui, les supermarchés sont tous fermés.
Carrefour a fait faillite après l'élimination des bleus.
Oui. On pensait qu'ils allaient faire faillite s'ils gagnaient avec les ventes de télé.
Mais non,
ils ont quand même fait faillite derrière. Enfin. Nous manquons vraiment de puissance. C'est tragique. Et nous passons maintenant à Powers de Brian Michael Bendis et Michael Evanoming. Je viens de donner un grand coup de pied dans une bouteille de sirop qui ne s'est pas ouverte. Je la ramasse vite avant de faire. Non, c'est bon, vas-y, tu fais une catastrophe. Donc Powers, le tome 7, si je me souviens bien. C'est ça ?
Oui. Tu as une très bonne mémoire.
Oh, que je suis fort. Qui s'appelle.
Éternel.
Au pluriel.
Tout à fait. Et là, dans ce tome 7, on ne présentera pas les auteurs, on l'a déjà fait
bon, on va rappeler
6 fois.
Brian Michael Bendis, auteur américain de bande dessinée, qui fait plein de trucs, tellement qu'on en parle presque dans tous les podcasts. Michael Evanoming, dessinateur principalement de Powers, avec un style très cartoony
et
à la fois noir.
Et récompensé au Eisner Award.
Voilà, et qui a aussi fait, dont on avait parlé, cette série avec les souris, qui nous a super marqué, hein, la preuve.
Dernier des Templiers.
Voilà.
Wouhou.
Donc, ce tome 7, qui est un pavé. On a combien de tomes recueillis là-dedans ?
7
tomes recueillis dedans, donc ça fait beaucoup. Pour une histoire bien complète, et en plus, je crois que ces 7 tomes, ça nous revient pas très cher.
15 euros.
C'est super bon rapport qualité-prix.
Rapport quantité-prix, c'est imbattable.
Oui, quantité-prix. Ah, qualité, t'es peut-être moins...
D'abord, je fais un rapport quantité-prix, c'est imbattable. Attends, à 2 euros le tome...
Oui. Voilà. Sachant qu'ils sont à 3$ en VO, en individuel, enfin bon. Et au prix du dollar quand il revient ici.
C'est soldé, quoi.
Ouais.
Donc ce tome.
Ce tome revient enfin sur un grand mystère qui sont les origines de notre héros, dont j'ai oublié le nom.
Christian.
Walker. Ça y est, ça m'est revenu. Texas Rangers.
C'est dommage parce qu'on ne peut plus les voir à la télévision vu que TF1 a arrêté de diffuser.
Oui, nous n'avons plus de Texas Rangers. Et donc, on revient sur toutes les origines de ce personnage et l'origine de ses pouvoirs et peut-être même l'origine, entre guillemets, de tous les super-pouvoirs. Même si il n'y a pas vraiment de réponse, en fin de compte. Ça commence quand même quelques millénaires avant notre ère, par des hommes préhistoriques. Carrément,
tout ça, on revient...
Avec un premier tome, donc, sans dialogue. Enfin, si, on a des dialogues qui font...
La guerre du feu, quoi.
Oui, la guerre du feu, la rivière, tout ça. On a un peu ce genre de rappel, d'ailleurs. Hein ? Ah, ça y est, tu viens de capter la rivière, la guerre du feu.
Je vais passer juste à la rivière, justement.
D'accord. Et on se rend compte qu'en fait, dès le départ, il n'était pas seul à avoir ses pouvoirs, qu'un autre les avait et qu'ils se fightaient. Ils sont fightés pour une bonne femme.
Au départ.
Et chaque épisode, ensuite, nous fait avancer dans le temps pour nous montrer la nouvelle confrontation entre ces personnages. Par exemple, la deuxième histoire nous emmène dans un monde... On a l'impression d'être dans le heroic fantasy, hein.
C'est
du Conan, quoi.
C'est Conan, quoi.
C'est Conan, avec un superbe hommage à Frazetta et son Death Dealer au milieu.
Yes.
Voilà. Et puis on avance dans le temps, le personnage, on se rend compte qu'il perd la mémoire au fur et à mesure qu'il vieillit, il se souvient pas des dernières des choses qu'il a faites. C'est du C'est très intéressant. Surtout qu'on se rend compte qu'il y a plein de choses dans les tomes précédents qui sont expliquées. Des personnages, un ennemi dont en fait on savait pas grand-chose et on en apprend d'un coup beaucoup plus. Surtout qu'on arrive à l'époque contemporaine en fin de compte.
C'est clair. Disons que dans toutes les époques que tu croises, il est présent parce qu'à chaque fois il revient pour se battre contre donc Gora, qui est le nom de Christian Walker
son nom
depuis
antique.
L'Antiquité.
Sauf que Christian Walker a oublié à chaque
oui.
fois, avec le temps. J'ai trouvé très intéressante l'idée que. En gros, ils se souviennent des choses qui datent d'il y a une centaine d'années, comme nous, on se souvient de notre enfance, de quand on était
Voilà, mais
enfant,
pas plus loin.
et pas plus loin. Et oui, mes souvenirs, mes plus vieux remontent à quel âge? 3 ans, 4 ans, un truc comme ça. Enfin,
Oui, je dirais 4-5 ans.
voilà. Et bah lui, tout son passé, c'est avant. Donc ça lui revient quand on lui en parle, quand il en a des bribes. Mais et ce qui est marrant, c'est aussi de le voir à l'époque héroïque. Quand il était un super-héros classique, de voir un peu tous les personnages qu'on a vus au cours des différents tomes vieillir et péter un peu les plombs, de voir c'est Ultra Girl, de revoir Ultra Girl, qui est
De revoir ses super copines de l'époque,
voilà.
les super méchants de l'époque.
Donc vraiment très intéressant. Bon, toujours les mêmes problèmes un petit peu de narration, mais je pense que ça vient de ces gros tomes où la reliure est tellement épaisse en fin de compte que parfois on ne sait pas. Si on doit lire les doubles pages
Double
comme une
page.
seule ou comme deux pages côte à côte, on se fait souvent avoir. C'est le seul reproche. Sinon, c'est sublime. C'est très bien raconté. Le style graphique, ce genre cartoony noir, je crois que ouais, du dark cartoony. Ah, ça sonne bien comme terme.
Du dark cartoony. Fais attention parce que le terme va être déposé et
Ouais.
tu vas créer le style.
C'est ça. Bref, ça marche très bien. Et moi, bah, j'ai trouvé que c'était. Il y avait un petit côté parenthèse dans ce tome parce que. L'intrigue générale n'évolue pas sur les personnages, mais on apprend des choses bah, qu'on voulait savoir depuis un petit moment maintenant. Il y a moins cette critique qu'on pouvait avoir dans les tomes précédents, ce côté un peu critique de la société, des célébrités, etc. Mais c'est vrai qu'on apprend des choses et on voulait les savoir, quoi. Peut-être un petit peu déçu de la façon dont ça se passe, mais je vois pas comment on aurait pu ne pas l'être, je sais pas. Tu as
Je
pensé
sais pas,
quoi?
moi ça m'a fait. Cette parenthèse là, comme tu dis, c'est un peu une introspection quoi. Introspection qui a déjà commencé, je dirais, je crois, depuis deux tomes chez Powers.
Bah quand il avait quitté la police à la base.
Voilà, où Christian Walker donc se retrouve barbu au fin fond d'une cabane au Canada. Voilà, enfin tu reviens un peu aux sources du personnage quoi. Qu'est-ce, enfin.
On retrouve ce côté taciturne, oui, ce côté taciturne, ce côté désabusé.
Et plus, enfin, ouais, non, j'aurais pas dit désabusé. J'aurais dit, voilà, il est en train de vraiment de réfléchir sur sa vie, quoi. Il se rappelle encore, comme tu dis, le siècle précédent. Il se rappelle qu'il a été un super-héros. Il se rappelle qu'il a perdu ses pouvoirs.
Ça fait quand même longtemps qu'il réfléchit, hein. Il
Ouais,
prend son
mais en même
temps, hein.
temps, quand tu as quelques
Milliers d'années.
milliers d'années, quelque part, tu peux prendre ton temps pour réfléchir.
Oui. Par contre, je trouve qu'il a vachement évolué physiquement entre le côté préhistorique et le côté contemporain. J'ai trouvé assez étrange qu'il fasse remonter si tôt son origine. Il marchait à quatre pattes quand même, hein.
Mais comme quoi, il s'est bien développé.
Ouais. Comme quoi, il a réussi à évoluer quand même.
C'est parce que ça, il a des pouvoirs.
Qui découvre d'ailleurs au fur et à mesure.
Ouais.
Bon, il met du temps, hein. C'est pas Spider-Man qui, au bout de 2 épisodes, sait utiliser tous ses pouvoirs. Lui, on lui apprend qu'il peut voler au bout de 1000 ou 1500 ans, un truc comme ça, hein.
Mais par contre, un phénomène intéressant quand même, c'est qu'on peut supposer que dans la suite,
Il risque de
Christian Walker
retrouver.
va sûrement récupérer ses
Bah, déjà, on
pouvoirs.
apprend comment et pourquoi il les a perdus.
Oui.
C'est peut-être le point le plus intéressant de ce tome. Parce que c'était vraiment la question du pourquoi n'est-il plus un super-héros? Là, on le sait, c'est bouclé. Je pense que ça va permettre à la série d'aller vraiment de l'avant.
C'est pareil.
D'aller vraiment de l'avant et de pas rester bloqué sur ce mystère qui durait depuis un moment.
Comme aussi, ça peut être aussi la fin de la série, parce que en redonnant ses pouvoirs à Walker, peut-être que ça peut s'arrêter là.
La série se poursuit actuellement aux États-Unis, donc
Je te parle dans le sens,
oui.
non pas stopper la série, dans le
Oui,
sens réussite, quoi.
tu parles d'un point de vue qualitatif.
Voilà.
Bref, un bon rapport quantité-prix, un rapport qualité-prix assez raisonnable,
Très honorable.
très honorable. Et maintenant, nous allons parler d'Usagi Yojimbo, qui nous parle du Japon.
Qui aurait cru?
Oui, franchement, là, ils sont petits, ils ont des petites jambes.
Ils courent vite, et résultat, 3-0.
3-0. Contre le Brésil.
En finale.
Le Brésil a très mal vécu. D'ailleurs, ils ont lancé des menaces nucléaires sur l'Afrique du Sud en représailles. Ils pensent qu'il y a eu de la tricherie. Et vous imaginez que la France a dû se positionner par... Enfin... Revenons à Usagi Yojimbo. Nous sommes au tome 20, aux éditions Paquet. Ça nous coûte 6 euros. C'est en noir et blanc, format manga. Sachant que Usagi Yojimbo aux États-Unis est publié au format comics. Et il me semble même qu'aux États-Unis, c'est en couleur.
C'est possible.
Mais c'est pas plus mal, parce que ce format-là va très très bien à cette série. Nous avions déjà parlé d'Usagi Yojimbo il y a longtemps, il me semble. Un petit rappel, Usagi Yojimbo, c'est une série entre guillemets historique, qui se passe dans le Japon médiéval. Les personnages sont dessinés de façon animalière. Et nous suivons un ronin, donc un samouraï sans maître, qui s'appelle Usagi Yojimbo, dans ses aventures nombreuses et variées. Ce tome 20 est assez particulier, car c'est un recueil d'histoires courtes. Alors souvent, il y a des recueils d'histoires courtes dans Usagi Yojimbo, parce que quand il doit faire un long voyage, l'auteur en profite pour placer plein de petites histoires. Mais c'est surtout des histoires courtes qui s'intéressent aux personnages secondaires de la série. Faut vraiment qu'on arrive à la fin du tome pour avoir des histoires autour directement de
Usagi.
Et donc, on a l'impression de voir que l'histoire, les personnages progressent. On est dans un intermède, j'ai l'impression, avant quelque chose d'un peu plus gros au niveau de l'intrigue.
Bah, disons que comme ils ont fini l'histoire précédente avec l'épée légendaire.
Oui.
Forcément, ben voilà, on est revenu. On a eu ensuite le cycle où on a découvert donc le fils d'Usagi. On clôture un petit peu, on va dire, toutes les petites histoires qui sont autour, et ainsi que certains démons, des histoires, on va dire, des différents personnages secondaires, comme tu l'as dit. Ouais, je pense que on va nous représenter une grande fresque d'ici peu, quoi.
C'est vraiment la préparation. On fait ce petit intermède pour montrer où en sont les personnages, comment ils évoluent. Et on arrive vers quelque chose de gros. Le dessin, alors plaira ou plaira pas, moi j'aime bien. Je trouve que c'est assez simple. Alors en grand et en couleur, je sais pas si ça passerait aussi bien par contre.
Par contre, en couleur, je dirais peut-être que au bout du 20e tome, j'ai quand même l'impression que les pillards sur le chemin, c'est les mêmes depuis le premier tome. Je veux dire, ça fait 20 tomes que les mecs ils se font dérouiller sur le bord du chemin. Ça fait 20 tomes que c'est toujours les mêmes blaireaux et qui attaquent toujours le même lapin, quoi. Il y a un moment où il faut quand même qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas le battre.
Oui.
Voilà. Oui. Enfin, tous les méchants se ressemblent quand même.
Les méchants se ressemblent. Mais d'un autre côté, c'est des personnages secondaires. C'est un peu comme dans tout film d'action. Quand t'as les hommes de main qui arrivent par paquet de 15 et qui se font démonter la face, ils ont aucun intérêt, ces mecs-là. C'est juste histoire de mettre un peu d'animation avant qu'on rencontre le boss, quoi. Voilà, c'est un peu c'est une tradition japonaise. Regarde, oui, Double Dragon. Ils se ressemblaient tous aussi, les blaireaux sur le chemin.
Ouais, mais justement, avec de la couleur, bah, du coup, tu les changes un peu de couleur et bah, c'est plus pareil.
Oui, c'est vrai, c'est probable. Enfin, ça reste toujours une très bonne série. D'autant que Paquet, pour fêter l'arrivée de ce 20e épisode, offrait, alors dans la limite des stocks disponibles, faut voir si vous arrivez à en choper un si vous l'achetez maintenant, un petit livret de bonus, un numéro 0, que tu as oublié chez toi, bravo.
Mais il est bien.
Oui, qui est très intéressant, mais surtout qui m'a fait regretter certaines choses. Dedans, il s'amuse, par rapport à certains bouquins, à expliquer le contexte historique, les références culturelles, choses qu'on n'a pas dans la série classique, qui sont dans les recueils américains apparemment. Et j'ai l'impression qu'il y en a plein qu'on n'a pas. Et j'ai trouvé ça super intéressant.
On a moins d'informations que d'autres, et c'est vrai que du coup, on rate un petit peu des bouts de l'histoire parce que justement, c'est pas notre culture, quoi.
Ouais, et le contexte, sur la comment se passe une vengeance, les règles de la vendetta. On en voit des vendettas dans Exousagi, mais on ne connaît pas exactement les règles. Et il les explique un petit peu sur plein de choses. Ils en ont mis quelques-uns dans ce recueil. Il y a aussi des illustrations qu'on n'a pas été utilisées, des couvertures, des illustrations originales, des hommages par différents auteurs, plus ou moins connus d'ailleurs, on va dire moins connus. Je ne connaissais pas grand monde en fait.
Moins que plus.
Voilà, mais il y a des trucs vachement bien en tout cas.
Enfin, peut-être connus ailleurs, mais.
Pas de... Mais il y avait des dessins vachement sympas quand même. Moi j'ai trouvé que certaines réinterprétations étaient très cool. Parce que c'est fait plus ou moins humoristiquement, dans des styles très différents, ça vaut le coup. Bref, un bon Usagi Yojimbo qui présage du meilleur pour la suite, je pense. Si en tout cas la qualité se poursuit comme ça, ça va être vraiment très très bien. Par contre, Paquet risque d'être ennuyé parce qu'ils ont commencé à les sortir alors qu'on avait beaucoup de retard dans la série et que ça sent au rythme américain et que pour faire un recueil comme celui-là qui fait ses 180 pages, ça fait c'est presque un an de c'est un recueil de presque un an de d'Usagi là. Hein. C'est
Il faudra qu'on attende
entre chaque tome. Et on a l'habitude, pour tout le format manga, d'attendre beaucoup moins longtemps entre deux tomes. Bien, bien. Si vous entendez un petit souffle pendant le podcast, c'est que nous avons dû mettre l'aération, car nous sommes obligés de vivre en circuit fermé au niveau des réseaux d'oxygène. Nous nous en excusons par avance. Ce n'est pas aussi tragique que ce qui a pu arriver à Govou.
Pauvre Sydney.
Et oui, la peine de mort a été rétablie. Et il a été décidé que maintenant, la peine de mort se ferait à coup de vous aider. Oui, c'est terrible. Imaginez un peu ce pauvre Sydney.
C'est inhumain.
Un vous aider collé sur chaque oreille jusqu'à ce qu'il décède. Son cerveau a implosé. D'un autre côté, s'il avait joué, quoi, je veux dire... S'il avait fait quelque chose, on lui demandait que de courir. On lui demandait que de courir.
En même temps, non, le problème, il est bien là, c'est qu'il a joué.
Fable amère de Chabouté. De tout petit rien. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ce titre, de tout petit rien. Je pensais au BD de Trondheim, à ses recueils de son blog, qui s'appelle Les Petits Riens.
Chez Vent d'Ouest.
Chez Vent d'Ouest, qui est l'éditeur de Chabouté. Hein.
Ouais. Donc à 12 euros, un recueil de petites histoires. Alors,
en noir et blanc.
Tout en noir et blanc. Du texte, peu de texte, certaines très minimalistes, d'autres un peu plus longues, ouais, vraiment du dialogue.
Et avec un thème commun que résume très très bien le titre.
Fable amère. C'est grinçant, c'est dérangeant pour certains, c'est...
Petit côté cynique.
Enfin, cynique, oui. Petit, non.
Ouais.
Grand côté cynique sur tout ce qui nous entoure, quoi.
Des bouts de scènes de la vie de tous les jours. Des scènes du quotidien. Entre la bonne femme qui est en train d'expliquer à sa petite fille devant la caissière que voilà comment elle finira sa vie si elle ne bosse pas à l'école, qui est en train de commencer à insulter la caissière. Je vais raconter que celle-là parce que sinon après on gâche le plaisir. Hein.
Ouais.
Voilà. Et puis une fois que la cliente est partie, la caissière regarde au bord des larmes et une collègue qui arrive qui lui dit j'ai appris pour ton père, je suis désolé, condoléances. Voilà. Et c'est toujours des trucs comme ça. C'est des choses, des bouts de quotidien tristes. On a l'impression que Chabouté c'est pas un rigolo hein, parce que de tous les bouquins que j'ai pu lire de lui en général c'est pas très marrant.
Le premier qu'on avait fait dans le podcast, c'était Tout seul.
Tout seul, oui, qui n'était pas très joyeux non plus. Hein.
Ça finissait bien.
Oui, ça finissait bien, mais il y a ce côté...
Il y avait une belle ouverture, quoi, mais c'est vrai que oui, sur...
Il y a un côté mélancolique, toujours. Un côté mélancolique, un petit peu triste. Et dans Fable amère, c'est assez terrible. D'ailleurs, la couverture, je viens de la voir, j'avais pas fait gaffe... C'est une marelle avec...
Avec un tesson de bouteille pour marquer.
Oui, pour marquer, oui. C'est ça. On est dans le côté enfantin et dur. C'est toujours superbement dessiné, toujours très juste. Chabouté est vraiment un artiste de la temporisation. Il fait durer les choses. Il va nous montrer des petits détails, il va faire durer les cases. Tout ça pour créer un sentiment, pour faire ressentir une émotion. Et il y parvient, je trouve, magnifiquement bien. Oui.
Avec, enfin, en faisant justement des gros plans, en venant sur des. Voilà, il y a une mise en page qui est.
Il y a un dessin, un moment où il doit représenter la foule, et il le fait très très bien. C'est dur de faire une foule. Hein.
Ouais, mais surtout, c'est voilà, c'est l'espèce de. T'as le plan large, t'as le plan serré, tu vas avoir donc tout en noir et blanc, et puis. Quand et puis nous... le changement infime, quoi, qui fait que.
Quand il nous montre des gens coincés et serrés dans le métro, on a l'impression d'être serré et enfermé avec eux. Ils sont bien bloqués dans la case. Ils sont. Enfin, c'est une vraie réussite d'un point de vue narratif. C'est un bouquin qui vaut le coup, franchement, qui est agréable à lire. Enfin, agréable. C'est pas le mot, je crois.
Il est agréable à lire, mais dérangeant parce qu'il fait réfléchir. Voilà.
À des petits détails.
Ouais, à des petits détails de la vie qui font que on se dit toujours ouais, mais bon, c'est un peu nous, quoi. C'est un peu une tranche de notre vie aussi.
Oui, 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 oui. Nous passons maintenant à notre rubrique rattrapage. Non, pas mes cendres maintenant, Véro, s'il te plaît. Merci. Oui, désolé, mais. Avec la crise, il fait très très froid. Nous sommes obligés de brûler des livres pour nous réchauffer. Alors vous allez nous dire, on est en plein été, certes. Mais en fait, avec le nuage de cendres provoqué par toutes les images Panini qui ont été brûlées, le climat s'est vraiment adouci. C'est très très dur. On ne voit plus le soleil. Ça va faire quelques semaines qu'on ne le voit plus.
Depuis à peu près, je dirais, le 11 juin, quoi.
11 juin.
Vers 23h à peu près. Je crois que c'est là que tout a commencé.
Le gourmet solitaire de Jiro Taniguchi et, attention le nom dur parce que je ne l'ai jamais lu, Masayuki Kuzumi. Oui, je ne lis pas les noms en japonais parce que je ne les retiens pas, donc. Il faut que je les dise pour le podcast. C'est chez Saka. Alors, Saka, il me semble que c'est Casterman, c'est ça. Et ça coûte un code prix. Je n'ai aucune idée. Ça doit être dans les 9 euros, j'aurais tendance à dire. Jiro Taniguchi est très connu comme mangaka, surtout parce que c'est un petit peu quelqu'un qui fait des choses, on va dire, à l'européenne. C'est un peu comme ça qu'il est considéré. Et là, il a travaillé en collaboration, donc c'est un travaux de jeunesse, on va dire, hein, un truc qu'il a fait il y a quelques années. Il a travaillé en collaboration avec un scénariste pour nous raconter les mésaventures d'un gourmet solitaire, un homme qui a une petite entreprise.
Pourquoi mésaventure ?
Mésaventure, je trouvais que ça sonnait bien, c'est un joli mot, mésaventure.
Ouais, enfin, il est joli, mais. Enfin, aventure, quoi, juste.
Enfin, les aventures, c'est vrai.
Ouais, non, mais c'est pas le temps.
Oh mon dieu ! Il m'a servi un sushi ! Comment vais-je le manger ?
Oui, c'est pas une mésaventure, il est en train de manger.
Bon, en gros, on regarde un mec qui bouffe du et qui cherche des restos. Alors dit comme ça, pareil, hein, ça a l'air super intéressant, le mec qui va au resto. En fait, c'est un représentant de commerce qui...
Il fait de l'import-export, il fait venir des objets de l'étranger et il les revend au Japon.
Voilà, et forcément, à chaque fois qu'on arrive sur le bouquin, sur une scène, c'est au moment où il doit chercher un endroit où bouffer.
Oui, il finit toujours une réunion. Hein. À chaque histoire, oui. Il finit une réunion, il fait « Ah, oh, ben, j'ai fini si tard que ça, j'ai un petit peu faim. »
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, il m'a rappelé un de mes vices, on va voir. Donc, il va bouffer et à chaque fois, on est dans un quartier ou dans une ville, donc dans un quartier de Tokyo ou dans une ville japonaise différente, et on est dans des choses typiques. Le petit resto populaire typique, le sushi tournant,
ouais.
Où il va se passer un petit truc particulier, parce qu'en fait on apprend qu'ils font une promo, ils ont un happy hour sur le thon le plus rare et cher d'habitude, enfin.
Et qu'il n'y a que des femmes.
Que des femmes. Et dit comme ça, ouais, c'est un mec qui bouffe. Alors, premier intérêt, les restaurants existaient à l'époque où le bouquin est sorti. Bon, maintenant, je crois que ça fait quelques années. Peut-être que les trucs populaires existent encore. Mais depuis 1997, il est possible que les restaurants un petit peu plus gros, enfin, que certains d'entre eux aient disparu.
À vérifier, si quelqu'un y va, qu'il nous dise.
Donc, c'est un petit côté critique culinaire intéressante hein, à ce niveau-là. Mais c'est surtout parce que c'est ce qui m'a le plus plu. On découvre des coutumes et des façons de faire au Japon. Par exemple, saviez-vous... T'as vu, la rubrique culturelle.
Tintin. Vas-y.
Saviez-vous que il existe deux types de restaurants, ceux où l'on va pour boire et ceux où l'on va pour manger. Différence des restaurants, les restaurants où l'on va pour boire ne servent pas de riz. Voilà, c'est tout con, on va juste avoir des amuse-gueules qui vont être là pour couvrir l'alcool. C'est la même chose, mais il n'y a pas de riz. Donc, en gros, c'est ce genre de détails que j'ignorais totalement. On apprend d'autres trucs, que, en gros, un homme seul ne va pas dans une pâtisserie. C'est le genre de détails... Oui,
c'est féminin, ça va être ça.
Voilà, un homme seul ne va pas dans une pâtisserie, parce que ça devait vouloir dire qu'il va draguer, que c'est un pervers, ou j'en sais rien. Enfin, plein de choses sur la façon de vivre au Japon, sur les quartiers. J'ai appris aussi que les conflits parigo-marseillais existaient à la japonaise, entre Tokyo et Osaka, c'est ça ?
Ouais.
Et que les gens d'Osaka sont un peu plus comme les gens du sud, quoi, des bons vivants qui ont la tchatch, comparé aux Tokyoïtes un peu plus renfermés et froids. Et... Enfin, j'ai découvert un visage du Japon que j'ignorais totalement. Alors, ce personnage n'est vraiment qu'un prétexte, même si on en apprend un petit peu sur son passé, sur sa vie, ses repas lui rappellent des souvenirs. Mais c'est vrai que ça avait un c'est peu d'intérêt. Bref, en un tome, je pense que ça tient la route.
En plus, je pense que ce serait inintéressant et un peu lourd.
Ouais.
Voilà, un tome, ça suffit largement. Et c'est vrai qu'au début, bon, premières histoires, on se dit ok, il mange. Deuxième histoire, okay, il mange. Troisième histoire, il mange. Ok, bon, il doit y avoir autre chose. Alors du coup, on cherche un peu plus. Et moi, j'ai trouvé c'était ouais, pour moi, c'est un petit peu une sorte de voyage initiatique qui fait au fur et à mesure. Tu rentres dans sa vie, tu commences à regarder pareil que lui, quoi. Tu commences à regarder les cases, à voir un petit peu le décor, à voir tout ce qu'il y a autour, à voir que ben, finalement, c'est pas que le repas, quoi, qui est.
Oui, il y a le restaurant. Moi, ça m'a surtout, voilà, son rituel de sa clope après son repas. Il ne fume pas, enfin, tu ne le vois jamais fumer, non. Sauf après son repas, il s'allume sa clope. Et c'est le genre de rituel, moi, quand je l'ai vu faire ça, la petite clope après le repas, c'est vrai qu'elle est bien. Hein.
Non, mais il ne boit pas d'alcool.
Et il ne boit pas d'alcool, oui, ce qui est très très drôle. Il est toujours très ennuyé quand il arrive dans des restaurants où ils servent de l'alcool parce qu'il ne sait pas quoi faire. Bref, bon, alors c'est du Taniguchi un peu jeune, donc les traits sont un petit peu plus bruts que dans ce que j'ai pu voir de ses productions d'après, dans Quartier Lointain par exemple, qui a été un peu plus fin. Mais clairement, ça reste de la très bonne qualité, c'est tout en finesse. Voilà, c'est beau, c'est bien. Nous passons à la suite. Oui, la suite, mais bon, comme on le disait, solitaire. Nous sommes solitaires. Effectivement, nous avons dû nous débarrasser de nos copines. En fait, des manifestants ont essayé de rentrer chez moi pendant qu'on enregistrait pour prendre mes bandes dessinées. On a préféré leur laisser nos copines. On s'est dit que voilà... S'ils pouvaient pas se chauffer, au moins ils pourraient se nourrir. Mais maintenant, nous ne sommes plus que tous les deux. Et... Non, je préfère ne pas y penser. Le blog du petit Nicolin, de Nicolas Mazière, surnommé Nicolin, de son petit pseudo. Oui ? Non, tu veux dire quelque chose ? Je te vois la tête contre le micro.
Je me réchauffe.
Tu te réchauffes ? Donc, Nicolas Mazière est un artiste polyvalent qui fait un nombre de choses très très nombreuses. Ce monsieur, donc, a fait de l'illustration, il a fait des affiches pour le Festival d'animation d'Annecy à 3 reprises. Il a fait de l'animation, il a son studio d'animation, ils ont fait le dessin animé Les Puceaux, qu'il a lui-même adapté en BD. Et il a fait des blogs, le blog de Nicolin, le blog du petit Nicolin par la suite, et aussi un blog vidéo, le blog de Luciano, où on a un gros beauf marseillais qui dit que des conneries, c'est très très drôle. Dans le blog de petit Nicolin, donc, c'est l'histoire d'un môme qui a ses petites aventures de tous les jours avec son pote Binoclard et à se battre contre le gros bourrin de l'école et qui essaie de s'en sortir comme il peut, et qui vit plein de petites de gags en une planche, hein, que j'ai trouvé super sympa. Il y a plein de... Enfin, c'est varié, je sais pas ce que t'en as pensé.
C'était voilà, un petit blog efficace, des petits strips, sympa. J'ai bien aimé, moi, la présentation sur du papier de cahier.
Oui, avec, papier CIS.
Ouais, papier CIS. Avec la petite marge rouge, les petits carreaux et tout, les petites interlignes. Trop bien. Voilà, ça m'a bien fait rire, quoi. Passion de...
Est-ce que tu as reconnu des trucs? Non.
De quoi?
Je sais pas, je te demande.
Non, non, moi, c'est voilà, j'ai bien aimé la présentation, bien aimé les histoires. Après, voilà.
Bon, moi, ce qui m'a marqué, c'est que ce petit Nicolin, c'est pas n'importe quel gamin. C'est un gamin qui, maintenant, à notre âge. Parce que les références que tu peux avoir à toute la culture, on va dire la culture geek, hein, on peut le dire, mais qu'on a, que ce soit Retour vers le futur, Star Wars, les jeux vidéo, les trucs comme ça, ce môme, il aurait pu être dans notre classe. Hein.
Peut-être qu'il y était d'ailleurs.
Ouais. Moi j'étais binoclard à l'époque. Et oui, pauvre binoclard. Bref.
Oui, mais il est dans le blog. Il est dans la BD.
Il est dans la BD, oui. Il y a une petite chute très sympa où il parle à son ami. Moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est que c'était pas naïf. Il ne présente pas les mômes comme des débiles naïfs. Il se pose plein de questions, hein, sur comment marchent les femmes, etc. Mais ils vont à fond. C'est un petit côté petit Spirou en plus cru, plus direct.
Plus direct.
Ouais, plus direct. Il va droit au but, quoi. Spirou, c'est un...
Il est du sud.
Hein. Ouais, il est du sud. Hein. Spirou, c'est un môme d'il y a... Enfin, il a 50 ans maintenant, Spirou, en gros, hein, si tu regardes le petit Spirou. C'est l'enfance de nos parents, le petit Spirou.
C'est
hein.
Ça. Voilà.
Je veux dire, avec le prêtre et compagnie.
Avec le curé du village.
Le curé du village, non, c'est pas comme ça, quoi. C'est plus comme ça. Bon, après, il y a des blagues. Pareil, hein, c'est un môme, c'est des blagues de môme. Hein. Alors, pipi, caca et compagnie, il n'hésite pas. Le dessin est très naïf, justement, ce qui détonne un peu. Un dessin très simple, mais qui passe très bien, qui colle totalement au temps de l'histoire. C'est chez Bambou. Ça coûte 11,90€. Oh, ils ont fait un prix psychologique. Et nous allons encore nous projeter dans le futur. Enfin, je pense que, de toute façon... On est vraiment dans la science-fiction, on va parler de Valérian et Laureline, mais alors, pour le coup, c'est vraiment de la science-fiction, parce que je sais pas si on arrivera aussi loin dans le futur avec tout ce qui se passe en ce moment. Je peux pas vraiment dire qu'on ait encore beaucoup d'espoir. Franchement, je vous le dis, ne faites pas d'enfants, c'est plus la peine. C'est vraiment plus la peine. Valérian et Laureline, l'intégrale volume 3. Par Mézières et Christin, toujours, nous avons déjà parlé des deux premiers tomes. Et on poursuit, donc, toujours dans ces superbes éditions, avec des super commentaires, des préfaces de Stan Maretz qui reviennent sur la genèse, sur l'histoire, et sur
comment ils l'ont fait, comment ils travaillaient à l'époque, comment ils travaillent, je suppose, toujours. Et c'est excellent d'avoir tous ces petits apports en plus, parce que du coup, ça donne un autre éclairage à la bande dessinée elle-même. Et je regarde encore plus le détail du coup, parce que moi, comme je découvre Valérian et Laureline, contrairement à toi, j'en suis au tome 3 et de plus en plus ça m'éclate. Donc,
ça permet de rester dans le contexte, parce qu'il faut savoir que ces tomes ont été publiés entre 75 et 78, le siècle dernier.
Ouais, mais alors le siècle dernier qui est cruellement présent quand même, hein, et cruellement d'actualité.
Ouais, ça. Plus de 30 ans. Hein. Ouais, mais juste en train de calculer quel âge ça avait en étant sorti en 78. C'est à mon âge.
C'est à peu près ça, ouais.
C'est facile. Et donc, dans ce recueil, nous avons trois albums. Nous avons L'Ambassadeur des Ombres, Sur les Terres Truquées et Les Héros de l'Équinoxe. Des aventures indépendantes sur des thèmes super variés et qui n'ont rien à voir. On va vite fait parler de ce que raconte chaque tome. Je te laisse parler du premier.
L'ambassadeur des ombres. Donc, la galaxie tourne autour de Point Central, qui est donc la réunion de tous les peuples de toute la galaxie.
C'est un peu le Babylone 5.
Voilà. Mais un Babylone 5 encore plus énorme.
Oui, c'est gigantesque. Voilà. En fait, c'est plein de modules qui sont associés au milieu pour former une sorte d'amas spatial.
Voilà, c'est ça. Énorme. Et comme dans quasiment tout grand conseil, il y a donc une présidence tournante. Et bizarrement, nous arrivons à une présidence qui va être faite par les hommes de la Terre.
Les Terriens.
Les Terriens vont donc, ça y est, passer à la présidence pendant, je crois, une année, hein, à peu près.
Ouais, je crois que c'est plus, enfin bon, c'est pas grave, c'est pas
très important. Et donc, bien, ils arrivent et l'ambassadeur se fait kidnapper.
Et c'est donc nos héros qui vont devoir récupérer.
Non, c'est Laureline.
Ah oui, c'est vrai, Laureline.
Parce que Valérian, c'est l'épisode où Valérian ne fait rien.
Si Non, il attend. Il suit l'ambassadeur. Ouais, enfin, il se fait embarquer tout du long.
Il se fait embarquer tout du long, quoi. Donc,
il est enlevé un peu avec l'ambassadeur, entre guillemets.
Donc, du coup, c'est Laureline qui fait toute l'histoire.
Et donc, on a une femme héroïne, une femme forte. Et c'est quelque chose que j'avais trouvé, moi, très intéressant dans cette histoire. Surtout que Laureline, c'est franchement pas n'importe quoi comme femme. Elle y va... c'est une femme de caractère. C'est
bah, elle vient du Moyen-Âge.
Elle vient du Moyen-Âge. Mais attends, mais une femme du Moyen-Âge n'avait pas de caractère comme ça. Une femme du Moyen-Âge, les femmes étaient sans doute plus soumises à l'époque. Les hommes étaient plus au... Enfin, c'est une femme moderne pour moi. C'est ça l'impression qu'elle m'a donnée. Alors, elle a un appareil magique qui permet de reproduire des pièces et machin chose. Un animal qui est super génial, c'est le transmuteur grognon de Bluxt. J'adore cette créature, elle est géniale.
Oui.
C'est une sorte de petite bête qui passe son temps à râler et quand on lui donne quelque chose à bouffer, elle en chie 1000 exemplaires.
C'est ça.
c'est ça. Et donc, il l'utilise bah, pour monnaie de paiement. Parce que c'est une histoire qui est assez, en fin de compte, linéaire. C'est le seul regret que j'ai eu. C'est, elle cherche une piste, on lui demande des sous. Elle arrive à une autre piste, on lui demande des sous. Qui l'amène à une autre piste, on lui demande des sous. Et ainsi de suite. C'est un peu le regret que j'ai là-dessus, c'est qu'on est vraiment dans le truc point A, point B, point C. Enfin, c'est assez linéaire.
Ouais, mais la résolution est pas aussi linéaire que ça, parce que du coup, elle se fait tout du long sans que tu le vois.
Oui, oui, oui. C'est très bien amené. C'est vrai qu'au niveau de la résolution, effectivement, ça marche beaucoup mieux. Le tome 2 sur les terres truquées. Alors moi, c'est un de mes préférés.
Il est exceptionnel.
Il préfigure un petit peu, il me semble. Il y a pas mal de tomes qui vont arriver après, qui ont des rapports avec la Terre. Enfin, dans mes souvenirs, parce que je les ai lus il y a une vingtaine d'années, donc je m'en souviens très peu. Oui. Et là, en gros, ben, on voit Valérian qui est sur une mission et qui meurt.
Et là.
Et c'est, il est sur une mission dans une terre qui ressemble étrangement.
Non, c'était en Inde avec les Anglais.
Oui, en Inde avec les Anglais, voilà.
Et là, Valérian meurt. Et là, pendant une. Fin de la page.
Ah.
Il y a un truc, c'est sûr, il y a un truc.
Et ben en fait, c'est un clone. Et en fait, ils essayent de retrouver. On est vraiment dans une histoire bizarre. En gros, c'est plein de clones de Valérian qui essayent de retrouver une entité qui produit des sortes de bouts de terre parallèles.
Ouais, des réalités, d'autres réalités.
Voilà, qui sont des bouts de la terre à certaines époques. Et ils essayent de retrouver l'origine de l'endroit où se trouve l'entité en envoyant un clone de Valérian sur chaque planète pour récupérer des coordonnées. Et en général, il récupère les coordonnées et il se fait dessouder. Et on passe plus de la moitié de l'épisode à voir Valérian se faire dessouder. Et Laureline, qui là pour le coup est un peu plus passive, elle a une patronne qui est sur place et comme d'habitude, Laureline qui adore les ordres. Parce que vraiment, franchement, dans le genre qui supporte pas les ordres, dans toute la série, à chaque fois qu'on lui dit de faire un truc, ça la gonfle. Hein.
C'est une femme.
C'est une femme, oui. Bref, on voit ce truc avancer. Et c'est, enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Ils le disent dans la préface que ça rappelle un peu Philippe K. Dick. Effectivement, moi, je suis fan de K. Dick. Donc, c'est vraiment mon tome préféré. Du recueil.
Je peux pas dire. Enfin, du recueil de celui-là.
Oui, du recueil, oui. C'est mon histoire préférée du recueil.
Ouais, sur le recueil, oui. Après, je peux pas savoir vu que j'ai lu que 9 histoires pour l'instant.
Oui, oui, voilà, il y en a encore quelques autres. Mais la série est finie. On va peut-être arriver au bout. Donc, ils ont décidé d'arrêter. La troisième histoire, les héros de l'équinoxe. Les héros de l'équinoxe.
C'est pas parce que la France a mis aucun but en 3 matchs qu'il faut que tu dises toujours les héros.
Et même quand il chantait, il disait « aux armes, citoyens », il ne faisait pas les accords. C'est n'importe quoi. Donc, les héros de l'équinoxe, je te laisse raconter.
Les héros de l'équinoxe. Donc, Valérian est convoqué sur une planète pour pouvoir procréer et amener la nouvelle génération de cette planète.
Est-ce que ça t'a pas rappelé une autre BD ?
Pas du tout.
Si je te dis l'Incal ?
Pas du tout.
Ça t'a pas du tout rappelé l'Incal ?
Franchement, pas un brin.
Tu étais ironique quand tu dis ça.
Non, mais maintenant que tu me le dis, oui, c'est vrai que d'un coup, ça me rappelle l'Incal. Mais quand je l'ai lu, franchement, pas moi. Ouais. Ça aurait pu, hein, là, je suis d'accord.
Ah ouais, ça m'a fait penser à l'Incal où il doit pareil. Enfin, non, il doit pas, mais il devient le reproducteur.
Il devient.
Et tout le monde a sa tête. Même les femmes. Bon.
Donc, les héros de l'équinoxe, donc, une planète qui vieillit, mais qui n'a pas encore réussi donc à avoir sa nouvelle génération qui doit venir d'une île au-delà de la mer. C'est une évidence évidente. Donc convoque trois super hommes, on va dire, des hommes avec trois autres en plus de Valérian qui ont d'énormes qualités.
Et parce que leurs héros à eux n'ont pas réussi. Normalement, ça aurait dû être un des héros de la planète qui aurait dû le faire, mais personne n'a réussi.
C'est ça. Donc du coup, ils n'ont pas de nouvelle génération. Et donc, ces quatre personnages vont aller donc, au-delà de la mer pour justement essayer de procréer et avoir une nouvelle génération.
Et ce sont quatre mecs super balèzes, chacun dans leur domaine. Ils ont des super pouvoirs.
En fait, il y en a trois qui sont super balèzes.
Voilà.
Il y a
Valérian, pardon.
Il y a Valérian au milieu qui bof.
Qu'un humain, quoi.
Et qui, sans son matériel, est un peu une quiche.
Oui, qui choisit le plus mauvais chemin, qui
fait tous les mauvais choix.
Bah non, pas tant que ça en fait, vu que c'est lui qui est choisi. Enfin, c'est un peu le héros. Enfin, ouais, mais la chute est quand même assez terrible. Hein. C'est vraiment un clin d'œil au super-héros qui commence à arriver en France en 78. C'est un clin d'œil aux 4 Fantastiques. D'ailleurs, c'est les super-héros qui, enfin bon. Mézières et Christine les connaissaient sûrement déjà parce qu'ils ont vécu aux États-Unis, mais en France en 78, il me semble que c'est les débuts des Strange et compagnie. J'ai plus les dates exactes en tête. Un petit peu avant peut-être. Enfin bon,
je sais pas.
Non, c'est avant parce qu'on avait eu déjà les Star Wars en BD. Enfin bon, bref, ça faisait pas longtemps que ça existait. Et les Quatre Fantastiques étaient les héros les plus populaires en France. Et là, on a vraiment un clin d'œil avec les quatre fantastiques, avec des pouvoirs un petit peu chacun qui font penser à un élément. Hein. On a la terre, je sais plus, l'eau, enfin je sais plus quoi exactement, il y a le feu.
La terre, le feu et la foudre.
Ouais. Donc ils font penser aux éléments. Valérian au milieu, qui est un mec normal, qui va faire effectivement le meilleur choix, on va dire, pour le peuple en question. Et Laureline, qui pour le coup est encore passive, sauf à la fin.
À la fin.
Où en gros. Je vais raconter un peu parce que il faut le dire, hein, mais je vais essayer de raconter sans trop raconter. Valérian passe, on va dire, 40 pages à mener une aventure difficile et Laureline en 2 pages et plie le scénario. C'est ça. Hein. C'est, oh là là, il me gonfle ces mecs, moi je vais aller arranger ça et en 2 pages, elle plie le scénario.
Elle arrive sur la fin quand même, c'était déjà clos quoi, il avait fait 40 pages.
Ouais, non mais elle plie l'histoire, elle fait, oh c'est bon, hein, hein, oh. Elle va pas se laisser avoir par une mère pondeuse, là.
Ouais, enfin, elle est un peu jalouse, quand même.
Ouais, un peu.
Comme une femme.
Bah, d'ailleurs, je sais pas si t'as remarqué, ils sont en couple, hein. Valérian et Laureline. C'est dit assez clairement dans l'Ambassadeur des Ombres au début.
Ouais, mais c'est... Non, c'est dit sans... Moi, je trouve que t'as toujours une ambiguïté, quand même. Qui est... Ah, moi, tu dis qu'il a dû se passer des trucs, mais...
Ouais. Enfin, ils ont l'air d'être quand même vachement plus en couple que dans les premiers.
Oui, mais non. Mais t'as eu un moment évident, ils sont embrassés, ils ont fait un truc.
Je crois qu'il y a un moment où on les voit s'embrasser. Hein.
Oui, mais c'est parce qu'ils s'embrassent qu'ils sont ensemble.
Ouais, mais on est dans les années 70, quand on s'embrassait, c'est qu'on avait trop fumé, qu'on était sous l'extasie. En fait. Voilà. Et effectivement, c'est vrai, on a une image des années 70 assez...
Voilà.
Donc franchement, tu recommandes encore ce Valérian et Laureline. Si on devait choisir notre coup de cœur de la quinzaine, vers quoi est-ce que ça irait ? On sera peut-être pas forcément d'accord. Je te laisse choisir ton coup de cœur là. De tout ce qu'on a lu, qu'est-ce qui t'a
waouh ? Ah, c'est dur parce que là.
C'est pas aussi évident qu'il y a 15 jours.
Hein. Qu'est-ce qui m'a vraiment scotché et... Souvenir d'enfance, Long John Silver. Voilà, pour moi, c'est le pirate, quoi. C'est petit. Ouais. Voilà, j'étais petit. Et puis après, t'y a Fab, la mère de Chabouté, qui m'a. Ce côté grinçant, ce côté un petit peu. Voilà, qui vraiment. Pas moralisateur, mais qui est dérangeant dans la lecture parce que du coup, ça nous rapproche vraiment de nos vies, quoi. C'est un des deux. Voilà, moi je.
Effectivement, j'irais un peu dans ce sens. Moi, je dirais que ce qui m'a vraiment marqué, celui dont je reparlerai le plus volontiers, en tout cas, à conseiller, c'est peut-être Le Gourmet Solitaire. Parce que j'ai été surpris par la façon dont, avec un sujet simple, ils arrivaient à nous apporter une dose de culture sur un pays qu'on connaît peu, en fin de compte, dont on connaît peu les mœurs, qui sont très différentes des nôtres. Et c'est amené vraiment de façon très agréable. Alors effectivement, ça aurait continué 20 tomes, j'aurais peut-être pas autant accroché. Mais là, sur un tome, j'ai trouvé que c'était juste, que c'était assez vrai. Et j'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
Mais toi, le Goumet solitaire, tu le vois juste sur le terme culture, quoi.
Ah ouais, pour moi, c'est une découverte de la culture japonaise. C'est. Enfin, une découverte d'éléments de la culture japonaise que je connaissais pas. C'est ça qui m'a le plus marqué. Il y a la bouffe, effectivement, mais la bouffe, c'est une partie.
Ouais,
je veux
non,
dire.
mais enfin, pour toi, c'est pas tant l'introspection quoi sur le personnage qui est un peu. C'est ça. Enfin,
il y a cette introspection sur le personnage.
C'est sa petite liberté quoi. C'est le moment où il est enfin libre quand il mange quoi.
C'est vrai, c'est vrai, c'est aussi ça. Mais disons que je pense que le côté culturel m'a plus marqué parce que c'est très différent de notre culture à nous. Ça aurait été le gourmet solitaire en France. Donc il serait allé dans le Gers manger du foie gras.
Mais c'est
Et...
bon, on a déjà petit Guillaume qui le fait.
Voilà, ça aurait été le gourmet solitaire en France. Je pense qu'effectivement, je me serais plus accroché à cette introspection qu'aux coutumes et à la culture. Pourquoi? Bah parce que ça m'aurait pas marqué autant. Voilà.
Ouais. Ok.
Nous allons maintenant passer un peu à notre hors-sujet. Alors, c'est un peu du copinage, mais cette époque difficile,
Non, c'est fraternel de ton côté.
fraternelle. Il ne faut compter que sur la famille, les amis. D'ailleurs, je suis sans nouvelles de mon frère depuis.
Mais la Corse n'a pas coulé, au fait.
Il n'était pas en Corse, il était à l'Élysée Montmartre, à son concert, là.
Ah, mais...
Enfin, voilà. Ghost Town. Ghost Town, bah, un groupe dont je vais parler assez facilement, c'est encore la pub. Mon frère, qui est un artiste, on a parlé déjà du bouquin qu'il avait fait, est chanteur dans un groupe qui s'appelle Ghost Town. Ghost Town, un groupe que je qualifierais de metal corse. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? C'est du metal, quoi.
Ouais, c'est du métal, voilà, on va dire, mais
Bon,
pourquoi Corse? Oui, enfin, oui,
c'est du
parce
metal
que...
light, c'est du metal light, comme c'est pas du metal trop trop brutasse. C'est du métal qui se laisse écouter par une oreille non avertie. Je ne suis pas un grand fan de métal, même si j'écoute ça de temps en temps.
Mais qui se laisse écouter par une oreille non avertie,
Voilà, tu es
on
d'accord. Je veux
s'accorde.
dire, moi, je suis plus pop rock, des trucs un peu plus classiques. Ou bien alors le vieux métal. Tu sais, le vieux métal qui, maintenant, on appellerait ça du pop rock.
Ouais, non, non, c'est du métal. C'est du
Voilà.
métal, mais avec un chanteur qui est peut-être moins criard que beaucoup d'autres groupes beaucoup plus connus. On va dire qu'on a un vrai chant.
C'est pas du carcasse, quoi, hein, si, pour ceux qui connaissent. On
Oh
est
la
plus
vache, la référence,
proche
là, c'est...
de. Comment il s'appelle? Ah zut, le groupe. System of a Down. Voilà, il y a un petit côté System of a Down avec ce côté je peux faire gre 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 gre, mais à côté de ça, j'ai une jolie voix. Tu vois ce que je veux dire?
Et une harmonique.
Et une harmonique. De plus, ça a été fait de façon assez intéressante parce qu'ils ont rajouté des polyphonies corses, des inspirations corses, des inspirations aussi arabes un petit peu sur la première chanson, des mélanges assez étonnants, assez surprenants. Ils ont un chanteur dessus qui fait partie des chœurs d'hommes de Sartène, qui a fait tout le travail autour des polyphonies, qui se mêle avec ce rock, ce gros rock, de façon assez surprenante et assez bien.
Ça se conjugue très très bien.
Donc, je vous recommande d'aller y faire un tour, aller écouter. On peut l'écouter sur Deezer. Je mettrai les liens sur mon blog. Moi, je peux difficilement dire que j'aime beaucoup parce que c'est un peu mon frangin et que. Bon, franchement, j'aime beaucoup. Et c'est mon frangin qui l'a fait, mais j'aime beaucoup quand même. Et je suis un premier des méchants critiques de mon frangin. En général, quand il fait quelque chose de mal, je le descends. Petit regret, peut-être. Parfois, le mixage est trop riche pour une qualité MP3 pourrie à la Deezer.
Ce
Et
qui
j'ai
fait que c'est
l'impression
dur à écouter.
que, ouais, c'est pas forcément évident. L'album est sorti, on peut le trouver, je sais pas comment, faut le commander sur leur site. Et donc, voilà, c'est un très bon groupe. Il y a un batteur de malade mental.
Il faut le voir en live.
Voilà. Il y a un super bon guitariste aussi, qui est un guitariste. Disons que c'est le plus professionnel du groupe dans le sens où il a déjà travaillé en guitariste de studio, etc. Et il est rentré dans ce groupe qui pour le moment ne gagne pas grand-chose en argent juste parce qu'il aime ce qu'ils font et qu'il s'est reconnu dans leur musique. Et ça, c'est franchement vachement cool, je trouve. Bref, ça s'appelle Ghost Town, c'est du bon rock. L'album suit une thématique et une petite histoire qu'on trouve sur leur site. Une explication de l'histoire que raconte l'album, donc c'est un peu un concept, hein. C'est pour ça qu'il y a des choses très variées musicalement. Je vous recommande Bad Little Boys, qui est une tuerie. C'est un tube. Alors des gens préfèrent certains morceaux plus rythmés, mais alors celle-là, moi je trouve que les finales, quand ça monte là, avec le refrain et les polyphonies derrière, etc., c'est assez surprenant, mais c'est super bien. Moi, ça me met des frissons. Et puis voilà, tu veux rajouter quelque chose avant que j'ai l'air d'avoir fait juste de la pub à mon frère ?
Je te laisse dans ton truc fraternel.
Ah ouais, toi t'as pas aimé, c'est ça, c'est ça ?
Non, mais je peux pas dire, je les ai vus en concert et tout, et en même temps je suis allé déjà les voir deux fois, donc...
Donc ce que t'aimes ?
C'est quand même que j'aime, voilà.
Non,
c'est vraiment... leur premier album, c'est vraiment intéressant. Ils ont vraiment déjà beaucoup évolué par rapport au début, au premier 5 titres, je crois, ou 7 titres qu'ils avaient fait.
Ils ont fait un 5 titres.
Et ça, voilà. On se dit, voilà, des fois, on connaît des groupes, ils réussissent et ils font pas de la super musique. Moi, j'en connais un qui, pour l'instant, n'a pas encore réussi, mais s'ils avaient réussi, j'aurais déjà acheté leur album. Donc.
Il mérite, je pense, de réussir, d'être connu. Enfin bon, si c'est pas forcément votre genre, faites-le écouter à des amis à vous dont c'est le genre. Faites-leur de la pub, ça leur fait du bien. Ça s'écoute gratos sur Deezer, donc ça vaut le coup de le faire connaître. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, peut-être pour
toujours.
Je sais même pas pourquoi on enregistre ça. Non, mais je veux dire
l'espoir.
Mais comment on peut même pas l'envoyer sur Internet. Il n'y a plus de connexion. On peut même plus venir nous aimer sur facebook.com/oneaiclub. On peut même plus me suivre sur Twitter, twitter.com/oneaipied. Ni laisser de commentaires sur iTunes. Cet outil qui nous permettait d'être connu, de devenir célèbre, peut-être riche un jour. Enfin voilà. On peut même pas dire que toutes les informations se trouvent sur le blog. blog.jeudepied.org. Enfin, je pense qu'on va s'arrêter là. Bien, si vous nous écoutez, sachez que nous sommes restés jusqu'au bout des passionnés de BD, des fans de BD. Nous avons tout sacrifié pour en parler jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier instant. Sachez que s'il n'y avait pas eu cette Coupe du Monde, le monde aurait peut-être été différent. Et non, en fait, vous l'avez compris, c'est pas vrai. On a dit qu'il y a des conneries depuis le début.
Non, Raymond Domenech ne s'est pas suicidé.
Non, non, non. On ne mange pas de chat.
Non, non. Non. Nos copines vont bien.
Oui, elles vont bien.
Panini fait toujours des albums pour la Coupe du Monde et ils se vendent toujours, il n'y a pas de souci.
Par contre, comme ça fait 3 semaines qu'on a enregistré ce podcast, on n'en a pas la certitude, mais...
On n'est pas au deuxième tour.
Non, je pense pas, non. Non, je pense vraiment pas.
Et oui, par contre, les trompettes en Afrique du Sud, c'est vraiment intolérable.
Voilà.
Ça, c'est un crime. Ça, c'est peut-être la peine de mort, on devrait la rétablir pour le mec qui a inventé cette trompette.
Et peut-être que du fait d'avoir été éliminé si rapidement, ça nous a permis de ne pas les entendre aussi longtemps. Hein ?
Et de pas être sourd.
Et plus que personne va s'y intéresser à cette Coupe du Monde. Eh bien, merci à vous de nous avoir écoutés, à bientôt, ciao, et à dans 15 jours.
À dans 15 jours, au revoir.